Grain à moudre, une émission de Julie Clarini et de Brice Couturier, aujourd'hui tout seul. Hommage à Jean-François Revel. Revel a souvent eu raison avant tout le monde. Or, ce n'est jamais lui que les médias ont couronné, mais plutôt ceux qui l'avaient bien lu et parfois un peu recopié, et dont les idées sont arrivées sur le marché alors que les gens commençaient à pouvoir les entendre. Il paraît par exemple que Jean-François Revel est le véritable inventeur du concept de « droit d'ingérence » alors que c'est généralement Bernard Kouchner qui en est crédité. La barbarie à visage humain, parue en 1977, a fait connaître Bernard-Henri Lévy à un très large public, public qui ignorait tout ce que cette barbarie-là devait à la Tentation totalitaire, un livre publié par Revel l'année précédente. Et jusqu'à François Furet, dont Le passé d'une illusion, en 1995, reprenait des idées qu'on avait déjà lues sous la plume de Revel quelques années plus tôt, notamment dans La connaissance inutile et dans Le regain démocratique. D'où vient que Revel ait été aussi systématiquement boudé par le milieu intellectuel, par la famille, comme on dit et comme il disait? Est-ce de s'être intéressé à un peu trop de sujets libres? Ça va de la littérature, Proust, l'histoire de l'art, les sciences politiques, la philosophie, la poésie, et même le sport hippique et les bons vins, auxquels il n'a pas consacré beaucoup d'écrits, en tous les cas au sport hippique. Certes, notre tradition nationale valorise l'honnête homme qui se pique de tout sans se spécialiser en rien. Nous aimons l'intellectuel qui se définit par le fait qu'il sort de son domaine de compétences reconnues. Mais en voulait-on à Jean-François Revel d'être une espèce de dilettante? Lui en voulait-on d'avoir été trop journaliste pour un normalien agrégé voué par sa formation au professorat? Ou bien lui a-t-on fait payer cette image d'homme de gauche passé à droite qui lui a collé à la peau à partir de Ni Marx ni Jésus, son best-seller de 1970? En tout cas, Jean-François Revel, dans la revue Commentaire, nous assure qu'on lui consacrera des thèses un jour, a fait une mort des plus discrètes, à la fin du mois d'avril de l'année qui vient de s'écouler. Par bonheur, l'attribution du prix Renaudot Essai à l'ouvrage que Pierre Bonsen a publié depuis chez Plon, en hommage à Revel, est venue attirer un peu de notre attention sur ce contemporain capital. Une bonne occasion de faire le bilan contradictoire d'une œuvre qui compte tout de même une bonne trentaine d'essais et qui méritait mieux qu'une espèce de silence embarrassé. Alors, pour en parler, j'ai demandé évidemment à Pierre Bonsen, qui est donc l'auteur de ce livre qui s'appelle « Pour Jean-François Revel, un esprit libre » qui est paru chez Plon en septembre et qui vient donc d'être couronné par le Renaudot Essai. Jean-François Sirinelli, historien, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, auteur par exemple des années décisives 1965-1985, plus récent bouquin qui va paraître chez Fayard dans quelques semaines. Mais vous êtes surtout un spécialiste de l'histoire des intellectuels dans notre pays. Alain Besançon, directeur d'études à l'École des hautes études, membre de l'Institut d'histoire sociale, dont Jean-François Revel faisait également partie, membre du conseil de la rédaction de la revue Commentaire qui rend cet hommage à Revel et dont Revel faisait également partie. Et puis au téléphone, nous serons rejoints par Jacques Julliard, historien, directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur et auteur de Le Malheur français qui était paru en 2005 chez Flammarion, mais on le lit Jacques Julliard toutes les semaines dans l'Observateur. Donc on suit assez bien ses idées. Alors, pour cet hommage à Bonsen, je voudrais commencer par vous, évidemment, Pierre Bonsen. Faut faire remarquer que votre ouvrage, c'est un petit peu plus qu'une biographie simplement de Jean-François Revel, parce que un peu à la manière du BHL de Péan et Cohen, c'est aussi le portrait d'un milieu, notre intelligentsia, une histoire de ces foucades et ces aveuglements auxquels systématiquement vous campez un Revel qui incarnerait lui la lucidité, le respect des faits. Et puis, une dimension importante du personnage, c'est le refus de l'engagement, dans la mesure où l'engagement politique impliquait à ses yeux le fait de s'autoriser un certain nombre de mensonges utiles pour la cause qu'on sert. C'était bien là le but de votre ouvrage, Pierre Bonsen?
Non, le but, il est tout simple, il est dans le titre, hein, c'est pour Jean-François Revel, c'est un plaidoyer, simplement pour lui rendre justice, et tout simplement... Le fait que ce livre soit, j'en suis très fier, hein, le premier livre jamais consacré à Revel, est simplement le meilleur témoignage sur le fait qu'il y a une injustice à son égard. Que je considère simplement que cet intellectuel, cet écrivain, parce que je considère d'abord que c'est un écrivain, est un des esprits les plus singuliers de la deuxième partie du XXe siècle, et qu'il, pour moi, il est l'équivalent de ce que Orwell, en son temps, a pu représenter. Et ce n'est pas moi qui le dis en premier lieu, ce sont des esprits comme aussi respectables que, par exemple, Mario Vargas Llosa et surtout mon ami Simon Less. Si des gens comme Simon Less et Vargas Llosa estiment que Orwell et Revel sont comparables, je trouve que ça mérite la peine d'être examiné. Et en ce sens-là, c'est en ce sens-là que j'ai voulu lui rendre hommage. Et c'est d'autre part aussi un essai en creux, un salut à un ami, puisque un ami, un complice, puisque je faisais pas partie du cercle des intimes de Revel, mais j'ai eu la chance de le connaître à l'âge de 16 ans, en 1966. On s'est jamais vraiment quitté, si je veux dire, pour des raisons d'abord familiales, puis après pour des raisons professionnelles. Et voilà, c'était une manière ou une autre. Et donc, ce livre, je l'ai entamé du vivant de Revel. Il n'était pas question qu'il le lise avant, évidemment, publication. Il m'a ouvert totalement ses archives, sa correspondance, je crois un peu son cœur et ses confidences. Et le fait que ce soit le premier, je voulais vraiment qu'il soit publié de son vivant. C'est un peu la mort qui m'a rattrapé là.
Alors, j'aime bien cette comparaison avec Orwell, elle me semble assez justifiée. Et précisément, on pourrait faire un parallèle, Jean-François Sirinelli, avec la réception de l'œuvre d'Orwell, qui en France, finalement, n'a jamais eu. C'est tout récemment qu'on vient d'avoir plusieurs tomes des essais d'Orwell. Autrement, on se contentait généralement de 1954. Et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Est-ce que le parallèle... Pardon, 1984. Est-ce que on peut pousser le parallèle un peu plus loin? Après tout, Orwell aussi, c'était la défense des ordinary decent people.
Oui et non. Je partage votre sentiment du fait que Jean-François Revel a été à contre-courant et donc, d'une certaine façon, a fait l'objet d'un certain nombre d'ostracismes successifs. Pour autant, je pense qu'on donnerait à nos auditeurs une image un petit peu décalé, si on en faisait une sorte de banni qui est à l'extérieur. Il est à l'intérieur, et c'est ça qui est intéressant et qui donne, j'allais dire, de l'épaisseur au personnage, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui a été à l'intérieur et qui, de ce fait, a eu de l'influence, mais qui, c'est vrai, sur bien des sujets, a été à contre-courant. Et du coup, je partage tout à fait votre sentiment du fait que probablement son œuvre et son influence prendra de l'influence encore davantage au fil des décennies.
Comme un bon vin, justement.
On va dire ça comme ça.
Qui se bonifie. Alors, on va peut-être donner une petite idée de la biographie de Revel, parce qu'elle est impressionnante. Il faut quand même rappeler toujours que sa vie intellectuelle et politique commence dans la Résistance, et pas n'importe quand, fin 42, à l'époque où il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'intellectuels français dans la Résistance, surtout cet âge-là, dès en Cagne, il s'engage et il s'engage pas dans un petit... Alors c'est intéressant ce que vous notez, Pierre Boncel, parce que vous notez que dans certaines biographies de Revel qui sont parues depuis sa mort, on dit légèrement qu'il avait des contacts avec la Résistance, qu'il a fréquenté la Résistance.
Oui, c'est ça. Je le dis, le journal Libération... Le lendemain de la mort de Revel, c'est la biographie, a écrit, noir sur blanc, une petite infamie sur Revel, disant simplement qu'il avait exactement fréquenté la Résistance, comme on fréquente un club de boules ou une association de bridgeurs. Revel s'est engagé en septembre, il est né en 24, il s'est engagé alors qu'il était en Cagne, dans un réseau de résistance, et il a pris des vrais risques pendant la Résistance. Il l'a raconté dans ses mémoires, 70 pages de ses mémoires, à telle enseigne que, sans jamais se comparer à ce qu'il a appelé les éléphants, en l'occurrence le colonel Rémy, dont il parle dans ses mémoires, il a été nommé, à sortir de la guerre, directeur responsable de l'information pour la région lyonnaise. Et je vous rappelle que c'était un poste très important, puisqu'il s'agissait de réquisitionner les journaux collaborateurs ou pas, de permettre ou non l'ouverture ou non de la publication ou non de nouveaux journaux. Et donc son rôle a été non négligeable pour la résistance.
En fait, il faisait partie d'un réseau très important, c'était le service de renseignement de la résistance, qui s'appelait le Centre d'information et de documentation. Et c'est assez curieux de voir que ce réseau était, le chef de ce réseau, en fait, c'était Pierre Hervé, personnage très important de l'histoire du communisme français.
Et qu'il n'a jamais rencontré. En revanche, son chef, c'était, il a eu deux chefs, il est Auguste Anglès, qui après a publié l'histoire de la NRF, et surtout après, quand il était à Paris, puisqu'il était en Deux-Cagnes, il est passé à l'école normale supérieure, il a dépendu du Pierre Grappin. Pierre Grappin, qui plus tard sera recteur de l'université, le doyen de l'université de Nanterre, et que, ironie de l'histoire, qui a failli être, qui a été pris par la Gestapo, et qui a failli être fusillé illico, qui sera comparé par les étudiants de 68 à un SS. Et ça, Jean-François Revel, à différence de Aron, qui a toujours soutenu mai 68, disait que c'était pas le moindre des paradoxes de 68, que mai 68 ait pu commettre ce genre de scandaleuse bévue.
On reparlera de 68, parce que c'est assez important, mais oui, Alain Besançon.
Moi, je voudrais revenir sur votre introduction. Vous avez dit que il a été recopié. Non, il n'a pas été recopié. Jean-François Revel, d'abord, il n'est pas recopiable à cause d'un style particulièrement.
Moi, je parlais d'empreintes d'idées.
Mais non, justement, même les empreintes d'idées non plus, puisque nous avons actuellement une espèce de retour à gauche dans lequel on retombe dans les chemins que Revel avait passé toute sa vie à essayer de barrer. Ensuite, vous avez dit qu'un intellectuel est quelqu'un qui sort de sa compétence. Alors, ça ne s'applique pas à Revel, car chaque fois qu'il a parlé, c'était contraire à l'intérieur de sa compétence. Et quand il se renseignait, quand il a voulu parler de l'art, il s'est formé à Florence auprès de Fermigier. Quand il s'est parlé du communisme, il s'est énormément appuyé sur cette encyclopédie vivante du communisme, qui était le grand, je dis le grand parce qu'il est parfaitement oublié, mais qu'il méritait de ne pas l'être, à savoir Branko Lazic, un admirable, et ou Léo Labetz à Londres, etc. Quand il parlait de gastronomie, ben, il connaissait sa littérature. Quand il parlait vraiment, c'est un homme qui était toujours dans sa compétence.
Ensuite, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la définition de Sartre dans Qu'est-ce que l'art
intellectuel. Écoutez, c'est pas une très bonne définition, mais elle s'applique parfaitement à Sartre, effectivement, qui a parlé toujours en dehors de sa compétence, même souvent en philosophie. Alors, quand vous avez dit que c'est un homme de gauche passé à droite, ça ne lui aurait pas fait plaisir.
Je sais.
Parce que il a effectivement commencé comme un homme de gauche classique, et il a terminé en pleine liberté, c'est-à-dire dans une zone qui n'est ni de gauche ni de droite, que les gens de gauche appellent de droite, mais c'est un mot qui n'a rigoureusement aucun sens à l'étage intellectuel où se situait Revel. Quant à Orwell, moi, je sais pas, moi j'ai créé un livre sur Orwell il y a bien longtemps, un livre dans lequel je le comparais à Soloviov, à Vladimir Soloviov. Pourquoi ? Parce que c'est tous les deux des espèces de saints de l'intelligence, hein, et qui sont morts de très bonne heure. On peut pas le comparer. Ben, Orwell est mort à 45 ans, 42 46, ans,
hein, 46.
Ou 46 ans, enfin très jeune. Et Revel, grâce au ciel, a vécu jusqu'à 82 ans. Soloviev aussi est un homme qui est mort à 40 ans. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. L'un est un homme qui a fait une quête spirituelle. Je parle d'Orwell, ainsi que Soloviov. Chez Revel, c'est une quête intellectuelle, c'est une enquête intellectuelle qui ne s'est jamais terminée. Quant à la résistance, écoutez, on en a beaucoup parlé. En tout cas, je crois que Revel ne jouait pas les héros, du tout.
Jamais.
Il en parle avec plaisanterie, d'ailleurs, dans son livre. Il n'aurait pas aimé non plus qu'on en fasse un héros de la résistance, et puis tout ça est quand même très éloigné.
Pas du tout.
Hein, ça fait 60 ans.
Oui, qu'on n'en pense pas.
Jacques Juliard au téléphone. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour dire que c'était un homme de gauche passé à droite ou non?
D'une certaine manière. Je suis très d'accord avec ce que vient de dire Alain Besançon. Et je voudrais citer une anecdote personnelle. Nous avons fait il y a quelques années, ça remonte bien une dizaine d'années, Jean-François Revel et moi, une émission sur cette chaîne, sur cette station. Ça s'appelle À Voix Nue, je crois que ça existe toujours. Et il s'agissait de se donner la réplique. Et comme on nous avait laissés seuls, sans animateur, en nous disant, vous êtes journaliste, vous êtes de grands garçons, débrouillez-vous tout seul. Et je lui ai dit, si je comprends bien, je suis l'homme de gauche et vous l'homme de droite. Et Jean-François a explosé en me disant, mais il n'est pas question que je joue l'homme de droite parce que je n'ai jamais été un homme de droite, je ne suis pas un homme de droite. Et avec, vous savez, cette espèce de d'entièreté qui le caractérisait, il a dit « je suis resté toujours un homme de gauche ». Je lui ai dit « Jean-François, vous exagérez un peu, en tout cas, ça ne correspond pas tout à fait à la vision qu'on a de vous, et dans ce domaine, il faut être modeste, il faut accepter la vision qu'on a de soi ». Il m'a dit « mais il n'en est pas question, même si la plus grande partie de la gauche s'est trompée, moi je représente les véritables idéaux de la gauche ». Et je vous dis ça parce que, en effet, c'est une chose dont il a probablement souffert d'une certaine manière, cette espèce d'ostracisme dont il a été victime de la part de la gauche, pour des raisons que moi, dans ce débat-là, qui est le débat sur le communisme, je n'ai jamais caché que j'étais du côté de Revel, et je l'ai dit plusieurs fois dans l'Observateur. Mais je voudrais dire, en revanche, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que vous avez faite au départ, Brice Couturier, qui était reprise par l'ensemble des interlocuteurs, sur le fait que ce serait un homme méconnu. Franchement, je ne le crois pas.
Je me dis ça.
D'abord, si...
Moi non plus.
Pardon ?
Non, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'était pas si méconnu.
J'ai jamais dit ça.
Bon, alors c'est plutôt moi qui... Alors, j'ai pas dit qu'il était méconnu, mais j'ai dit qu'il était mal connu.
C'est peut-être mon mot qui n'est pas très bon, mais...
Ce
que vous avez dit, c'est que au fond, on l'a souvent privé d'idées qu'on a ensuite attribuées à d'autres, etc. Comme si il, bah oui, quand même, il n'avait pas été reconnu à sa juste valeur. Qu'il y ait eu beaucoup de polémiques autour de Revel, c'est vrai. Mais premièrement, ses livres ont toujours été de grands succès. La plupart, en tout
public,
cas,
mais dans le milieu, dans alors, le milieu dans intellectuel,
dans le milieu. Alors justement, dans le milieu, si vous voulez, alors là, il faut comparer sa situation avec celle d'Aron. Aron aussi a été fortement critiqué parce que il avait lui aussi une image d'homme de gauche et il est passé, entre guillemets, à droite. Il a écrit dans le Figaro, enfin, une série de signes extérieurs, en quelque sorte, de l'homme de droite. Mais je dirais que Revel, de ce point de vue-là, a eu même un succès public plus grand que celui d'Aron. Le succès d'Aron n'a été qu'à la fin de sa vie. Quant au fait qu'il était très critiqué dans le milieu de la gauche, c'est vrai que jusqu'à une époque qui n'est pas encore très ancienne, la gauche bénéficiait d'une sorte de légitimité. Et qui n'était pas de gauche était suspect et considéré comme une sorte de traître, au moins sur le plan intellectuel. Je crois qu'il y a échappé assez vite et que la force de sa polémique a fait qu'il a constitué un des pôles de la vie intellectuelle française, notamment dans ses rapports avec le politique. Alors, c'est vrai qu'une partie de la gauche n'a jamais voulu le reconnaître dès lors qu'il avait donné l'impression de la quitter, mais je crois qu'il a continué de jouer un rôle extrêmement important. Alors, je pense qu'on va en parler maintenant, mais j'en profite peut-être, comme je suis par téléphone et que c'est un peu plus difficile, pour dire un mot à propos du communisme, qui a été quand même, sur le plan politique, j'entends, la grande affaire de sa vie, la lutte contre le communisme. De ce point de vue-là, il est incontestable que Jean-François Revel a été parmi les premiers, pas le premier, parce qu'il y a eu des hommes avant lui, ne serait-ce que pour des questions d'âge, qui ont lutté contre le communisme. Mais sa bataille a été permanente, au point que certains, notamment parmi ses critiques, le considéraient comme une sorte d'obsédé de la question du communisme. Sur ce plan, je ne partage pas ce point de vue. Je n'ai jamais compris, et je rejoins ce qu'avait dit un jour sur ce plan... voyons...
Geoffrin.
Non, non.
Si,
non.
Parce que je...
Tout simplement, Alain Besançon, qui a fait remarquer, je crois, une fois, que lorsque on rappelle le nazisme, on est dans le devoir de mémoire, et si on rappelle le communisme, on est dans l'obsession anticommuniste.
Le malheur, c'était dans le malheur du siècle.
Comment?
C'était dans le malheur du siècle.
Oui, je m'en rappelle plus très bien. Mais en tout cas, sur ce plan-là, je crois qu'il a joué un rôle très important et que aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est pas un rappel permanent du communisme, ces affaires-là, mais une analyse en profondeur que lui-même avait commencé des effets du communisme sur le siècle.
Je vais juste citer Jean-François Revel parce que je l'avais interviewé moi-même en mars 2000 pour l'événement du jeudi et il m'avait dit sur le fait que je lui ai demandé est-ce que vous êtes encore de droite, de gauche ou est-ce que vous êtes passé à droite. Alors, il m'avait répondu exactement cela. Ce n'est pas moi qui ai cessé d'être de gauche, c'est la gauche en France qui a renoncé à ce qui m'apparaît comme le message central des Lumières, à savoir la rationalité et le respect de la vérité.
C'est ce qu'il m'a dit aussi.
Ouais. Alors Jean-François Sirenelli, vous qui êtes un spécialiste de notre paysage intellectuel français, alors est-ce que vous le classeriez définitivement à droite ou d'une gauche réformiste ou d'une gauche libérale ?
Non, je crois que Jacques Julliard, je partage l'analyse que vient de faire Jacques Julliard et je crois que d'une certaine façon, il est à la fois inclassable et, j'allais dire, le malheur du temps le place plutôt à droite qu'à gauche. Quand je dis le malheur du temps, c'est de l'humour, bien évidemment, mais je veux dire par là qu'un certain nombre de dérives, si vous voulez, du débat le place plutôt de ce côté. Alors ensuite, je justifie mon propos, si vous le voulez bien. Moi, si j'avais à définir, et je précise que ça n'est pas le témoin qui parle, puisque je n'ai pratiquement pas connu Jean-François Revel, c'est l'historien qui essaye de réfléchir, si vous voulez, sur un parcours. Et si j'avais donc à résumer ma réflexion vraiment en deux mots, je dirais c'est à la fois un esprit libre et un intellectuel libéral. Une fois qu'on a dit ça, il faut préciser. D'abord, un esprit libre. L'historien n'est pas là pour donner des brevets de liberté, mais en même temps, ce qui est intéressant dans le cas de Jean-François Revel, c'est qu'il s'est toujours placé dans une perspective de conserver sa liberté de penser. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça paraît évident. Mais, et c'est tout le sens du livre de Monsieur Bonsaigne, il a raison de replacer ça en contexte d'une histoire intellectuelle. À certains moments, conserver sa liberté de penser, ça demandait, bon, on ne risquait pas sa vie, mais ça demandait du courage intellectuel, une certaine forme de courage physique également, en tout cas une absence de frilosité. Et à cet égard, c'est un esprit libre. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas non plus parce que on peut être un esprit libre et dire n'importe quoi. Et ce qui est intéressant dans le cas de Jean-François Revel, ce qui m'intéresse moi en tant qu'historien, et tout à l'heure d'ailleurs Alain Besançon le disait, c'est que c'est quelqu'un dont la parole était une parole non seulement méditée, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un intellectuel, mais une parole documentée, c'est-à-dire qu'il y a une part d'érudition dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que quelqu'un qui parlait de quelque chose qu'il entendait connaître et qui nous donnait des clés à partir d'un champ d'expertise. Ça, c'est l'esprit libre. D'autre part, et c'est tout le sens de l'intervention de Jacques Julliard, c'était un intellectuel libéral. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du malheur du temps, c'est-à-dire qu'effectivement, des décennies durant, un certain nombre de gens, je ne parle pas là du libéralisme économique sur lequel il peut y avoir débat, mais un certain nombre de gens qui étaient tout simplement des partisans de la démocratie libérale, hein, ont eu dans cette sorte d'Occident de l'Europe qui était, l'Ouest dans la guerre froide, ont eu à batailler parce que l'ère du temps, l'esprit dominant, hein, c'était pas d'être pour la démocratie libérale. Et il faut, à vos auditeurs les plus jeunes, il faut rappeler ce qui nous paraît à tous ici, vérité d'évidence.
Que Staline était extrêmement populaire dans l'intelligentsia française jusqu'en 1956.
Oui, et d'ailleurs, à ce propos, Revel disait, n'oublions jamais que Churchill est plus à gauche que Staline. Et historiquement, ça ne me paraît pas dénué de fondement.
Je voudrais qu'on suive un petit peu le déroulement biographique de cette vie de Bonsaigne, de vie de Revel que vous rapportez, Pierre Bonsaigne, pour parler de champ d'expertise à l'instant, Jean-François Sirenelli. J'aurais rappelé quand même une chose importante, qui me paraît importante dans le cas de Revel, c'était la maîtrise des langues étrangères. Ça a l'air de rien, mais à l'époque, un intellectuel français qui écrivait dans la presse italienne, parce qu'il a fait aussi une carrière de journaliste en Italie, ce qu'on ne sait pas toujours, qui a provoqué un débat énorme en Italie avec son livre Pour l'Italie, où en réalité il réglait son compte avec un certain nombre d'archaïsmes de la vie culturelle, politique et morale de l'Italie. Un homme qui lisait tous les matins donc la presse italienne, la presse anglaise, américaine et la presse espagnole, parce qu'il parlait toutes ces langues-là. Et c'est aussi un homme qui a beaucoup voyagé. Et ça m'amène à la deuxième étape de cette carrière intellectuelle que je voudrais rapporter, c'est le combat anti-gaulliste de Revel. Car en effet, Revel a vécu un certain nombre d'années au Mexique dans sa jeunesse, il avait une trentaine d'années, et il a eu sous les yeux ce phénomène extraordinaire sur le plan de la vie politique mondiale, qui était le Parti révolutionnaire institutionnel mexicain, le PRI. Et il en a rapporté l'idée que ce qu'on pouvait faire de pire, c'était ce mélange de nationalisme agressif, de centralisme autoritaire et de mépris des réalités qu'a constitué effectivement le PRI. Et d'une certaine manière, ce qui fait probablement ce champ d'expertise de Revel, c'était qu'il était capable d'appliquer à la situation française, à nos blocages, à nos absences, à notre incapacité à nous réformer, des modèles venus de l'étranger, ce qui à l'époque, je parle encore une fois des années 50 et 60, était fort rare dans notre intelligentsia, qui avait rarement le regard tourné en dehors de l'hexagone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Pierre Bonsen, en quoi cette vision critique du système mexicain, donc de ce côté révolutionnaire institutionnel, a pu aider Revel à décrypter les blocages de la situation française qu'il a trouvé à son retour?
Écoutez, vous avez commencé l'émission en me demandant ce qu'était mon livre. En fait, j'ai dit que c'était un plaidoyer. Mon livre est un essai. Moi, je pense que donc c'est un essai partial de ce point de vue-là. J'espère qu'il sera complété par d'autres livres. Je pense que la vision politique de Revel, la matrice de ses idées politiques et tout son parcours est fondamentalement marquée par son passage au Mexique et le rapport entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et que toute l'œuvre, disons, politique au sens rapide du terme, le plus large du terme, de Revel est fondée là-dessus. C'est le séjour au Mexique où il part, où il s'éloigne du reste de la France et de l'Europe pour de multiples raisons, caractère du reste aussi assez biographique et assez profonde, qui vont fonder son analyse politique. De l'analyse au Mexique et de la situation du PRI, quand il reviendra en France, il va tirer son analyse anti-gaulliste. C'est par opposition, l'analyse du PRI, de ce qu'il aura vu, et des rapports du reste du Mexique avec les États-Unis, et comme la découverte de l'Amérique latine, qu'il connaissait parfaitement, et c'était un de nos sujets de conversation, puisque moi-même, et je suis, pour des raisons familiales, je suis franco-colombien, et donc il connaissait parfaitement l'Amérique latine, et tout le modèle politique de Revel, tout ce en quoi il a pu déranger, vous le trouvez, et on peut voir, je vais retomber dans l'actualité. Jean-François Revel nous manque aujourd'hui, par exemple, au moment où on voit l'hiver du patriarche à Cuba, au moment où Pinochet vient de mourir. Et j'imagine ce qu'il eût écrit quand on a vu la distorsion entre les commentaires qui ont été faits dans les médias, entre les commentaires qui ont été faits à juste titre sur Pinochet et l'absence absolument scandaleuse de commentaires même de la gauche, justement, de la gauche, sur ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, qui est une honte, un scandale pour l'esprit, un scandale contre la démocratie, un scandale contre les idéaux de la gauche. Je rappelle que Raúl Castro, qui est aujourd'hui... Le frère héritier, c'est-à-dire un pur népotisme, a torturé de ses propres mains des gens, fait fusiller de ses propres mains, et notamment le grand écrivain Reynaldo Arenas, que j'ai eu la chance de connaître et d'être ami. Et Reynaldo Arenas a été un des premiers à prendre les armes à Cuba, à côté de Fidel Castro et tout ça. Et personne à gauche se lève pour dire ça.
Ça viendra peut-être le jour de son
procès.
Laissons-leur une chance.
Oui, et donc, ça de ce point de vue-là, je veux répondre de ce point de vue-là. Et donc, c'est en ce sens-là que Revel disait que c'est pas lui qui a trahi la gauche, c'est la gauche qui a trahi ses idéaux. Comment se fait-il que quelqu'un à gauche, au PS par exemple, ne se lève pas pour dire que c'est une honte ce qui se passe là-bas? Et voilà en quoi Revel nous manque.
Il y en a quand même, il y en a. Alain Besançon.
Vous avez dit que les idéaux de Jean-François, c'était la rationalité et la vérité. C'est pas forcément de gauche. Il y a eu la rationalité qui n'était pas de gauche. Il y a eu un sens de la vérité.
C'est pas moi qui disais, c'est lui.
Il n'était pas de gauche. Incontestablement, il se met dans la tradition des Lumières. Dans la tradition de Montaigne, qu'il interprète comme un sceptique, ce qui n'est pas d'ailleurs l'avis de l'érudition moderne. Mais enfin bon, il l'interprète comme un sceptique. Il y avait une longue tradition de Montaigne sceptique. La tradition de Voltaire, qui est, disons, l'anti-catholicisme, la tradition de Diderot, il se déclarait athée, donc il y a chez lui une partie d'anti-religion qui le classe effectivement dans une tradition qui est devenue de gauche, parce que ni Voltaire, ni Montaigne n'étaient de gauche, dans la mesure où la gauche à ce moment-là n'existait pas. Mais alors ça a eu une deuxième conséquence, cet esprit de rationalité et de vérité, c'est la lutte contre le fatras, contre les gourous obscurs qui ont dominé la vie intellectuelle de la France, disons de Sartre à Lacan, hein, et ça essayait de dégonfler ces baudruches qui se regonflaient d'ailleurs toutes seules, mais enfin quand même, il a eu de l'influence, il a montré que Heidegger et Lacan c'était pas quand même la fin,
je suis pas tout à fait d'accord sur Sartre, hein.
Sartre, il a
beaucoup attaqué politiquement Sartre, oui. Il a toujours reconnu le génie philosophique de Sartre.
Oui c'est vrai. Peut-être avec ça. Mais enfin, disons, pour revenir encore une fois à l'anticommunisme, alors, et la critique du gaullisme. Il a critiqué le gaullisme, justement, dans la mesure où le gaullisme, du moins à la fin de la présidence de Gaulle, prenait des positions systématiquement anti-américaines et pro-soviétiques. Et ça indignait Jean-François Revel. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas, la gauche parle, trouve que le communisme mérite un certain respect. Et elle critique le stalinisme, ce qui n'a exactement aucune pertinence, puisque le communisme commence avec Lénine, et se continue jusqu'à Mao et jusqu'à Pol Pot, hein, c'est donc une unité, hein, qui comprend Staline comme un de ses moments. Et d'autre part, la droite gaullienne trouve que c'est pas bien d'avoir été anti-soviétique parce que il y a la Russie éternelle, l'alliance de revers, etc. Et c'est un atout contre les Américains. Alors ça, évidemment, Revel n'était pas content. Et il était, dans sa sympathie pour la culture américaine, il était évidemment l'adversaire et de la gauche et de la droite. Ce qui fait que il a été quand même un peu méconnu, pas du monde intellectuel en général, mais du monde des médias. Hein, mais comme le monde intellectuel est plus large que le monde des médias, nous ne dirons pas qu'il a été méconnu de celui-là.
Voilà. Vous voyez que j'avais peut-être pas complètement tort de dire qu'il avait été mal connu. Bon, Jacques Julliard au téléphone, vous vouliez intervenir sur ce sujet en particulier, Revel face à De Gaulle.
Et plus généralement sur sur le jugement qu'on porte sur lui. Et oui, c'est un de mes motifs de désaccord avec lui. J'en ai eu beaucoup. Je crois que je suis devenu ami de Revel à la fin de sa vie, mais on avait beaucoup de motifs de désaccord. Nous avons eu même une polémique publique dans nos journaux respectifs à propos de la Bosnie, où il était exaspéré par l'action que nous sommes un certain nombre à avoir menée en faveur de la Bosnie et par voie de conséquence contre la Serbie, Serbie de Milosevic. Mais il y avait un autre cas, je dirai un mot de De Gaulle après, mais il y avait un autre cas où je me sentais en désaccord avec lui et je lui avais dit sous cette forme en lui disant « Jean-François, chaque fois que vous critiquez la gauche, les tyrans de gauche, je serai de votre avis. Je trouve néanmoins que vous ne critiquez pas avec assez de vigueur ou avec autant de vigueur la droite et les hommes de droite et parfois les tyrans de droite. L'exemple que nous prenions, enfin que je prenais, c'était les États-Unis. Encore tout récemment, à propos de l'Irak, je ne me rappelle plus les termes exacts qu'il a employés à ce moment-là, mais enfin, était très nettement du côté de Bush. Et donc, puisque on a essayé de chercher des critères pour définir un homme de gauche et un homme de droite, là, il se comportait tout à fait comme un homme de droite. En tout cas, il défendait les valeurs américaines qui ne sont pas des valeurs de droite, qui sont souvent des valeurs démocratiques, mais qui étaient dévoyé à mon sens par Bush, et là il était à peu près inconditionnel. Je crois que dans les critiques qui lui ont été faites à gauche, il y avait des choses qui étaient vraies. On peut très bien admirer la culture américaine comme il l'admirait sans devenir aussi inconditionnel. Moi je crois que Revel, qui est ça n'a pas été tout à fait un homme de l'engagement, mais c'était un homme qui était toujours interpellé par l'actualité, avait une sorte de sens des hiérarchies. Il n'attaquait pas, les criminels, ce qu'il considérait comme des criminels secondaires, parce que il y avait des criminels principaux et ceux-là étaient dans le camp du communisme. D'où, je crois, notamment à la fin de sa vie, une inflexion dans un sens conservateur que moi je n'approuvais pas.
Je voudrais rappeler qu'on est sur France Culture, que l'émission c'est du grain à moudre et qu'aujourd'hui nous rendons un hommage à Jean-François Revel qui nous a quittés au cours de l'année dernière, donc écoulée. Nous sommes avec Pierre Bonsen, donc qui vient de consacrer un livre qui s'appelle « Pour Jean-François Revel » à l'auteur en question, qui a reçu le prix Médicis, essai, et qui est paru chez Plon. Nous sommes avec Jean-François Sirinelli, historien des idées et de l'intelligentsia, avec Alain Besançon, historien, Jacques Julliard, que vous venez d'entendre au téléphone. Alors je voudrais signaler que pour faire cette émission, nous avons contacté pas mal de gens, et que beaucoup des gens que nous avons contactés pour y participer se sont refusés à venir à cette émission, ce qui semblerait confirmer certaines des choses que vous écrivez, Pierre Bonsen, parce que vous dites vous aussi que quand vous avez testé sur un ensemble de d'auteurs et d'intellectuels parisiens votre désir d'écrire sur Revel, beaucoup de gens vous ont dit « mais quelle idée stupide ».
Pour dialoguer par téléphone avec Jacques Julliard, je n'ai jamais dit, et justement c'est toute la difficulté de mon bouquin, enfin si je de faire passer mon idée, je n'ai jamais dit que Revel était méconnu. Revel était ultra connu. Il avait du succès, il était à l'Académie française et tout ça. Mais pour prendre un exemple simplement que Jacques Julliard va pouvoir apprécier, comment se fait-il que au milieu des années 80, dans le Grand Larousse de la langue française, il y ait par exemple Jean Daniel et Jacques Fauvet et pas Jean-François Revel?
Oui, mais ça me paraît tout à fait scandaleux.
Mais oui, mais ça vous montre, ça montre bien. Et comment se fait-il que dans tous les livres de, mais c'est scandaleux à vous, genre, il y a aucun problème pour vous, Jacques Julliard, hein. Mais comment se fait-il que dans tous les dictionnaires, que ce soit les dictionnaires spécialisés ou les dictionnaires disons grand public, il y a une cohorte d'intellectuels de gauche marxisant, ainsi de Bourdieu, tous les sociologues et tout ça, tous les sous etc. Et que Jean-François Revel n'apparaisse que au début, c'est-à-dire au début de l'année 2000, enfin non, à la fin du 20e siècle, uniquement du reste pour des raisons techniques, parce qu'il est élu à l'Académie française. Puisque on sait que chez Larousse, automatiquement tous les académiciens, qu'ils soient connus ou pas connus, rentrent dans Larousse. Sinon ils seraient toujours, à mon avis, ils seraient pas dans, ils seraient
tous
pas
les
dedans.
Dans l'institut.
Non, pour répondre, Pierre Bonsen, je disais moi-même tout à l'heure que longtemps, ça me paraît beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais la légitimité intellectuelle était administrée par la gauche. C'est l'héritage de la libération. Avant la guerre, c'était le contraire, hein. La bénédiction intellectuelle était donnée par la droite. C'était, même si Maurras n'a jamais pris le pouvoir en France, on était bien loin, c'est le maurrassisme qui donnait le ton au Quartier Latin pendant de nombreuses années. C'est depuis la libération que le ton est donné, il est trop long d'expliquer pourquoi, par la gauche et même l'extrême gauche. D'où, effectivement, dans un certain nombre d'ouvrages, des inégalités de traitement ou des injustices dont Revel a pu être victime. Il n'est pas le seul dans ce cas-là.
Donnez-moi un autre.
Comment?
Donnez-moi un autre.
Ben, Aron était...
Pas du tout. Raymond Aron était tout à fait reconnu, et ça je suis tout à fait en désaccord. Était tout à fait reconnu, excusez-moi, et c'était tout à fait...
Oui.
Et je peux vous dire, de ma génération... De la génération qui a été juste en Cagne en 1968-69, je parle devant un spécialiste de la Cagne, Jean-François Sirinelli, de cette génération-là et qui était en Cagne, moi j'étais en Cagne à Henri IV, Raymond Aron était tout à fait connu, et même il était par exemple Glucksmann. Glucksmann était l'élève de Aron.
Je dis que
était parce qu'il était universitaire.
Il n'était pas reconnu. Raymond Aron était considéré, rappelez-vous ce qu'avait écrit Sartre à son sujet, que quand on défendait ses positions, on ne pouvait même pas aspirer au nom d'intellectuel. Un intellectuel était forcément un intellectuel de gauche.
Il y avait un problème entre Sartre et Aron.
Oui, mais pas uniquement.
Mais Aron a très vite été relégitimité par le fait qu'il était, et ça c'était très important, c'était que Revel avait quitté l'université. Et Revel, nous explique.
Attendez, pour vous départager, je voudrais donner la parole à Jean-François Cirinelli, quand même un des meilleurs historiens des idées dans ce pays. Et j'aurais lui demandé de tester cette idée que Jacques Julliard vient d'émettre, parce qu'elle me semble assez juste. À savoir que la droite intellectuelle tenait le pouvoir avant la guerre, notamment à travers, effectivement, le racisme qui était extrêmement influent, on s'en souvient mal, et que depuis 45, c'est la gauche qui a tenu le pouvoir. Est-ce que vous ne croyez pas, Jean-François Cirinelli, qu'on est en train précisément de changer d'époque, et que cette mainmise de la gauche, cette maîtrise de la gauche sur le recrutement de l'intelligentsia est en train de lui échapper?
Vous le dites très bien.
Jean-François Cirinelli.
Jacques Julliard vient de vous approuver. Non, globalement, il a tout à fait raison. Jacques Julliard, dans l'entre-deux-guerres, je dirais pas que la droite était dominante, mais disons que le pouvoir intellectuel était partagé entre la droite, oui, et la gauche. Alors que, de fait, après la Seconde Guerre mondiale et pendant au moins une trentaine d'années, jusqu'au milieu des années 70, ça change au milieu des années 70 pour toute une série de raisons, là il y a vraiment une gauche intellectuelle ou des gauches intellectuelles, car elles sont diverses, qui sont dominantes. Et c'est ça qui est intéressant dans le cas de Jean-François Revel, c'est que, dans le fond, jusqu'au milieu des années 60, il est au sein de cette gauche intellectuelle, il aurait pu y rester comme dans un cocon, il est même dans le contre-gouvernement constitué au sein de la FGDS par François Mitterrand. Et ce qui est intéressant, c'est que...
Il est à France Observateur. Hein.
Oui, tout à fait.
Oui, il est à France Observateur. Service culturel.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il en sort. Alors, comme le disait Jacques Julliard, ça le situe probablement dans le débat plus à droite qu'à gauche. On peut pas nier, si vous voulez, un tel état de gravitation politique qui déporte les gens à un endroit ou à un autre. Ce qui est intéressant, c'est l'âge peut-être, mais c'est que ça, il transcende en même temps. Et je soumets la question aux amis présents ou à Jacques Julliard qui est en ligne. Moi, ce qui m'intéresse dans Jean-François Revel, c'est dans le fond qu'il nous aide à penser la complexité du monde. Je vais prendre un exemple sans monopoliser la parole. On parlait des États-Unis à l'instant. Le livre « Ni Marx ni Jésus », c'est 1970. On est en pleine guerre du Vietnam. C'est le moment où, quand on est un intellectuel de gauche, on est en train plutôt de crier « Oh, oh, Kim In, Che Guevara » que le contraire. Et voilà quelqu'un qui, en 70, nous dit dans le fond, l'avenir du monde, l'avenir, mais dans le bon sens du terme, se joue peut-être en Californie. Et il n'y a qu'un autre intellectuel français qui, à la même époque, le dit, c'est Edgar Morin. Il y en a deux dans ce cas-là. Voilà, j'en dis pas plus.
Alors attendez, justement là, je rebondis, parce que j'ai préparé une fort longue question faite de citations de Ni Marx ni Jésus, qui est un livre que, évidemment, pour cette émission, j'ai relu. Je l'avais lu à l'époque de sa parution, et j'ai trouvé, alors, comme je vous disais tout à l'heure, énormément de gens qu'on a contactés pour cette émission m'ont dit, non, je ne veux pas parler de ce grincheux réactionnaire sur lequel il est inutile de revenir. Alors, par contre, je dis, bon, moi, je vais aller regarder du côté de certains de ses ouvrages les plus anciens pour voir si, effectivement, c'est tout à fait démodé. Eh bien, je suis tombé sur des choses qui m'ont vraiment retenu parce que, par exemple, la question de la résistance des identités culturelles à l'homogénéisation du monde, qu'on n'appelait pas encore la mondialisation. Écoutez Revel, écoutez ce que Revel écrivait en 1970. J'ai fait une espèce de florilège de citations sur cette question qui me paraît traitée d'une manière extraordinairement contemporaine. Je cite Revel. « L'originalité culturelle ne consiste pas à réchauffer le passé. L'uniformisation... on dira aujourd'hui l'homogénéisation, ne sera pas conjurée par la défense du passé, elle le sera par l'accroissement de la créativité individuelle rendue possible dans la civilisation technique et dans les sociétés libérales. Les modes de vie imités du passé pré-industriel sont de toute manière rongés, pénétrés ou refoulés par les produits et les comportements des sociétés nées de la révolution industrielle. L'uniformisation technologique seule peut désormais être le support de la diversité culturelle, une diversité non plus de préservation, mais d'invention. Les minorités futures seront fondées sur le choix et non plus sur la coutume. Jadis, à la diversité des cultures répondait l'uniformité des individus à l'intérieur de ces cultures, car on oublie un peu trop le despotisme des cultures traditionnelles, ces prisons qu'étaient le village, la tribu, on disait pas encore l'ethnie à l'époque, la paroisse, la corporation, la famille. À l'avenir, ce sont les individus qui créeront les cultures. Et encore, le monde connaîtra, je cite encore Revel, un polycentrisme culturel provenant de la multiplicité des initiatives et non de la juxtaposition de croyances traditionnelles culturelles et de coutumes ancestrales imposées aux individus. Voilà, tout ça se trouve dans Ni Marx ni Jésus, page 41, 42, 43, on peut vérifier. Alors il faut admettre que Revel avait trois bonnes décennies d'avance sur nos débats actuels autour du multiculturalisme, des identités et de l'émancipation.
Pas sur la pensée américaine, tout ce que vous venez dire d'abord a été déjà diffusé en France par Raymond Aron dans ses leçons sur la société industrielle, mais en Amérique c'était vraiment la foule solitaire de Riesman, McLuhan, etc. C'était toute une littérature sociologique, mais effectivement Revel lisait l'anglais, il le lisait de façon vivante, il le lisait à l'heure, hein, c'est ça la différence. Mais pour revenir à l'avant-guerre, écoutez, je crois que la force dominante de la pensée d'avant-guerre, c'était le pacifisme. On l'a oublié, mais c'était le pacifisme. Hein. Et ça nourrissait à la fois une pensée de gauche, et finalement le Front Populaire, ça a été ça. Hein. Ça a été le pacifisme et l'antifascisme. Mais l'antifascisme était déjà plus ou moins une manipulation. Et puis aussi une pensée de droite. Hein. Ça, c'était le pacifisme qui était la pensée dominante. Évidemment, après la guerre, ça ne se posait plus. Il y avait plus de guerre, en route. Et souvent, les anciens maurrassiens sont devenus communistes, et les anciens collaborateurs d'ailleurs sont devenus communistes aussi, parce que c'était la meilleure façon de se mettre à l'abri.
Jacques Julien, j'aimerais bien votre réaction sur les longues citations que je viens de faire là, parce que c'est vraiment des sujets qu'on agite beaucoup aujourd'hui, aussi bien au Nouvel Observateur qu'ailleurs. Cette défense des identités qui est souvent présentée aujourd'hui de manière précisément défensive, préservatrice, comme s'il y avait une espèce de réservoir des identités qui devait, de réserve comme on dit, une réserve animalière, qu'on devait préserver à tout prix de l'échange avec d'autres, et qu'on devait comme ça préserver dans leur pureté originelle. Et c'est une idée qui court beaucoup aujourd'hui et dont Revel, je trouve, dans ce texte, démontre l'extrême fausseté.
Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord, là, totalement d'accord. Et sur ce plan, d'ailleurs, je dois dire que cette pensée des origines, cette obsession des racines, je ne sais pas si elle est de droite ou elle est de gauche. J'espère qu'elle n'est ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est certainement une des choses qui nous menace le plus. Moi, ce que j'ai appris de la gauche dans laquelle je me reconnais, c'est qu'un homme se définit non pas par ses racines, même si c'est pas inintéressant de savoir d'où il vient, y compris pour lui-même, de savoir d'où il vient, mais où il va. C'est sur le projet que se fait la civilisation, et non pas sur la comparaison des racines. Et de ce point de vue-là, moi, je pense effectivement que ce qu'il y a de gauche, j'ai dit tout à l'heure que ce serait tout de même beaucoup forcer le trait que de dire que Revel a été de gauche d'un bout à l'autre, ou totalement. Mais ce qu'il y a de gauche dans Revel, et qu'il est resté jusqu'au bout, c'est la confiance dans la valeur universaliste de la raison, qui implique, comme je viens de le dire, un projet. J'en profite pour dire que je crois que c'est vous, Alain Besançon. Non, je crois c'est Brice Couturier qui a fait allusion au pacifisme à l'instant, non ?
Non, c'est Alain Besançon.
C'est Alain Besançon. Il y a un homme qui pourra en parler mieux que personne ici, c'est Jean-François Sirinelli, puisqu'il a fait une thèse précisément sur le pacifisme chez les intellectuels dans l'entre-deux-guerres. Et je crois que vous avez raison tous les deux. Le pacifisme a été... Là aussi, c'est comme le communautarisme.
On le comprend, d'ailleurs, après la guerre de 14.
Oui, bien sûr.
Mais ce pacifisme n'était pas le propre de la gauche ou de l'extrême gauche. Il était le bien partagé de bien des courants intellectuels.
Exactement. Exactement. Non, moi, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est le changement de mentalité intellectuelle, d'atmosphère intellectuelle. Je pensais à l'entre-deux-guerres et même surtout aux années 1910, là vraiment dominé par la pensée de droite. Ah
oui. 1910, ça d'accord, tout à fait.
Oui, oui. Et mais c'est vrai jusqu'aux années 30, après.
Oui, c'est ça.
Disons que ça s'équilibre. Et puis, même chose, la gauche ou l'extrême gauche prend sa revanche en quelque sorte dans l'après-guerre. Et jusqu'aux années 70, ça s'équilibre, et j'aurais tendance à penser que il y a un bel avenir actuellement pour la pensée de droite.
Alors, ni de la droite ni de la gauche, je veux dire, comment se fait-il que nos libéraux, parce que si on peut classer, je crois, Revel quelque part avec Aron, d'ailleurs c'est du côté des libéraux, comme Orwell du reste, comment se fait-il que nos libéraux soient systématiquement classés à droite, du côté donc des conservateurs et des réactionnaires, alors que de Tocqueville à Aron, dont on parlait à l'instant, ou de Benjamin Constant à Jean-François Revel, ces mêmes libéraux n'ont eu de cesse de déplorer les blocages français, notre immobilisme, notre fermeture sur le monde, notre notre nombrilisme, notre nationalisme exacerbé, etc. Jacques Julliard.
Oui, moi je n'ai jamais considéré que le libéralisme était de droite.
Historiquement, il était même de gauche.
Comment?
Historiquement, il était même de gauche. Mais enfin, c'est un peu obsessionnel, cette gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Ça correspond pas à Revel, tout ça. Si on parlait un peu, disons, du personnage Revel, plutôt que de le mettre dans cette matrice infernale de droite ou de gauche qui, nous l'avons dit dès le début, n'a aucun sens quand s'il concerne ou pas grand.
Pour parler de...
C'est tout à fait vrai, mais enfin, bon...
Pierre Bonsen.
Jean-François Sirinelli, moi, je suis très content que Jean-François Sirinelli ait parlé ni Marx ni Jésus, parce que je considère que c'est véritablement un livre qui a été un tournant. Parce que avant, il y a eu le Revel qui était effectivement en plein dans le débat. Il a publié pour Pourquoi des philosophes, la cabale des dévots. Il a été, il est plein, disons, un intellectuel plein à la Manchester. Mais ni Marx ni Jésus marque une césure. Et c'est la première césure avec son camp. C'est-à-dire que effectivement, c'est un ouvrage sur l'Amérique dans lequel, à la suite d'ailleurs d'un long voyage aux États-Unis. Hein, dans lequel il se plonge dans les États-Unis et il découvre que la nouvelle révolution, d'après lui, va avoir lieu là. Exactement comme vous l'avez dit, et ça je peux témoigner personnellement, qui à l'époque pouvait dire que la véritable révolution c'était pas Cuba, la Yougoslavie ou la Chine et tout ça, c'était les États-Unis. Et parmi les chapitres de Mars et Jésus, il y en a un qui est totalement d'actualité aujourd'hui, puisque Brice Couturier a lu tout à l'heure des passages tout à fait saisissants. Il y en a un qui parle de l'émancipation des femmes, du féminisme. Hein. Chose qui était très importante d'après Revel.
Hein. Non, je peux dire un mot, là
on oui, Jacques Julliard.
Oui, par rapport à l'intervention d'Alain Besançon, cher Alain Besançon, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un carcan extérieur, d'abord, parce que lui-même s'est beaucoup situé dans ces catégories, et surtout parce que, en dehors du libéralisme politique, qui est en effet plutôt à gauche, historiquement, et même nettement à gauche, il y a la question du libéralisme économique qui s'est posée depuis une vingtaine d'années, où Jean-François Revel a pris des positions très nettes. Il était absolument pour le libéralisme économique, et d'une manière même beaucoup moins, je dirais, prudente ou nuancée que la plupart des hommes politiques de droite qui s'en réclament plus ou moins.
Il était friedmanien, il était,
oui,
il était thatchérien. Mais il était également pour un libéralisme culturel, comme on dit.
Oui,
il était pour la libération des mœurs.
Pour la libération des mœurs, ça explique.
Alors là, il est plutôt de gauche, si vous voulez. Mais enfin, c'est moi qui m'attends qu'il revienne dans cette patrie infernale.
Oui. simplement, par exemple, à propos du Chili, c'est vrai qu'il était sensible à l'expérience économique qui a été menée sous Pinochet et qu'il n'hésitait pas à souligner les aspects positifs et que je trouve qu'il n'a pas été assez virulent contre le régime de
Pinochet. Pierre Bonsen voudrait vous répondre, Jacques Julliard.
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je connais très bien ce sujet-là. J'en ai parlé très longuement avec lui. Et il était sur le Chili, il n'y avait pas de problème, simplement. Sur le Chili, il disait, par exemple, évidemment, c'est gênant de dire des choses pareilles, je ne dis pas qu'il avait raison, mais je dis que ça vaut la peine de... Il disait, quand on dit que Pinochet a mis fin à la démocratie au Chili, Revel rajoutait cette phrase dérangeante, effectivement, pour les faits, et qui est effectivement, c'était, il disait, le problème, c'est que la démocratie était déjà morte au Chili.
Il a mis la société chilienne, enfin Pinochet a mis la société chilienne de façon extrêmement rude et effectivement critiquable, au frigidaire, mais ça lui a permis de renaître quelques années après. Alors que ceux qui sont tombés dans le castrisme, et c'est quand même le danger qui menace le Chili, ceux qui sont tombés dans le castrisme, ils y sont toujours.
Bien sûr.
Mais je parle pas de la société chilienne, je veux pas.
Un mot conclusion, Pierre Bonsen, parce que c'est la fin de cette émission. Enfin, avant ça m'ennuie qu'on reste dans cette ambiguïté à l'égard des positions de Revel face au Chili Pinochet.
Mais il n'y a aucune ambiguïté. Écoutez, relisez les passages de l'Express ou les Express, il n'y a aucune ambiguïté. Il a condamné de manière absolument...
Il n'en a jamais fait un combat.
Et simplement, il disait qu'il fallait traiter de la même manière Pinochet et Castro, c'est tout.
Eh bien, là-dessus, nous serons d'accord, je crois, tous. Merci beaucoup pour ce dernier mot, Pierre Bonsen. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Pour Jean-François Revel, un esprit libre ». Ce titre s'est paru chez Plon et vous avez eu un prix fort mérité pour cet excellent ouvrage. Jean-François Sirinelli, vous êtes historien. Votre dernier ouvrage, « Les vins décisives, 65-85-1900 », s'est paru chez Fayard. Enfin, ça, pardon, je recommence mon erreur. Ça va paraître chez Fayard et c'est même au mois de mars. Donc, on est encore loin. Je pense que vous êtes encore en train de corriger les épreuves. Alain Besançon, directeur d'études à l'École des Hautes Études, membre de l'Institut d'Histoire Sociale, membre du conseil de rédaction de la revue Commentaire. Je recommande donc sur ce numéro de Commentaire 116, hiver 2006-2007, qui contient une série d'articles d'hommage à Jean-François Revel, qui était membre du comité de rédaction de cette revue. Et au téléphone, Jacques Julliard, donc, qui est le directeur délégué de la rédaction du L'Observateur et qui a publié Le Malheur français chez Flammarion en 2005.